Jeudi 19 février 1987, Marco Flacq interview Michel Vetter et Patrick Zahn, sujet les États-Unis et la ratification du protocole numéro 2 en langue française.
L'administration. Non, je commence par un autre titre. Les titres des journaux ces derniers jours ont annoncé que le président Reagan a dit non au Comité international de la Croix-Rouge. En effet, l'administration Reagan a décidé de recommander au Sénat de ne pas ratifier le premier protocole additionnel aux conventions de Genève de 1949, dont le CICR est le garant. Le président Reagan s'est ainsi apparemment rallié à l'opinion des plus durs de son administration, à l'opinion de son état-major, selon qui le protocole offrait protection et légitimité à des organisations terroristes. Quel est l'avis du Comité international de la Croix-Rouge, ou du moins de certains de ses animateurs, concernant cette question, cette actualité? Eh bien, je pose d'abord la question à Michel Vetter. Vous êtes délégué général pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage dont on a beaucoup parlé, Guérilla et droit humanitaire, qui a été publié il y a 3 ans par l'Institut Henri Dunant à Genève. Première question, Michel Vetter. Qu'est-ce que c'est que ce protocole additionnel? Qu'est-ce que c'est que ce protocole additionnel?
Eh bien, ce protocole additionnel, d'abord, il y en a deux. Il y a un protocole 1 qui s'adresse aux victimes de conflits armés internationaux et un protocole 2 qui protège les victimes de conflits armés non internationaux. Et ces deux instruments ont été négociés de 1974 à 1977 à Genève par l'ensemble de la communauté internationale, y compris d'ailleurs une délégation très active des États-Unis, qui a signé ces deux instruments à la fin de la conférence en juin 1977. Et ces deux protocoles additionnels complètent les quatre conventions de Genève de 1949 pour tenir précisément compte non seulement des expériences de la Deuxième Guerre mondiale qui avaient pris en compte les quatre conventions de 49, mais aussi tous les conflits qui ont eu lieu après, y compris d'ailleurs le conflit du Vietnam, depuis évidemment 49 à 75, il y avait eu une série de conflits comme la décolonisation, comme le Vietnam et comme d'autres aussi conflits conventionnels.
Patrick Zahn, vous êtes porte-parole du CICR. Je crois que 100 pays ont signé ces protocoles additionnels, mais beaucoup moins les ont ratifiés.
Oui, effectivement, l'état actuel des ratifications des deux protocoles est actuellement, dans l'ensemble, satisfaisant. Nous avons aujourd'hui 66 pays, tout du moins en date de janvier 1987, 66 pays ont ratifié le protocole 1 et sensiblement un peu moins, c'est-à-dire 60 pays ont ratifié le protocole 2. Ce qui, par rapport comparativement à l'état de ratification de nombreuses conventions ouvertes telles que celle-ci, est relativement satisfaisant.
Michel Vetter, finalement, les États-Unis, eh bien, sont démocratiques. C'est un État fondamentalement démocratique. Alors, est-ce qu'on peut penser que si le président Reagan propose quelque chose, ainsi que certains de ses conseillers, est-ce que cela signifie que le pays entier va adopter cette proposition, ou bien est-ce que le Parlement aura quelque chose à dire là, peut-être modifier tout à fait cette décision?
Bien sûr, c'est pour cela que je nuancerai tout à fait les titres des journaux. Et quand on dit le président Reagan dit non au CICR, je dis ce n'est pas vrai du tout. D'abord, le CICR a développé une excellente collaboration sur le plan opérationnel dans une série de pays avec le gouvernement américain. Et ensuite de cela, le président Reagan ne dit pas non au CICR, puisqu'il simplement, il entame la procédure de ratification, en tout cas du protocole 2. Il exprime un avis qui n'est probablement pas celui que le CICR aurait voulu sur le protocole 1. Mais cela dit, c'est le début d'un dialogue au sein du gouvernement américain. C'est le début de dialogue que le président Reagan lance d'une manière peut-être vive, mais cette manière vive va permettre aux chambres, aux deux chambres du Congrès américain, peut-être de nuancer les propos du gouvernement et peut-être d'amener une conclusion qui serait bien différente. En effet, si dans ces protocoles, vous avez des dispositions qui peuvent sembler difficilement acceptables pour le gouvernement américain, eh bien le gouvernement américain peut aussi formuler son opinion d'une manière plus nuancée. Il peut aussi, par exemple, exprimer des réserves à l'égard de certaines de ces dispositions et ratifier quand même les deux protocoles. C'est en tout cas ce que nous espérons qui sera le résultat final de cette procédure qui s'entame aujourd'hui.
Finalement, quel est l'effet de ce protocole sur la protection des victimes? Et puis par ailleurs, guérilla, terroriste, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des termes tellement élastiques.
Alors, guérilla, terroriste, d'abord nous, CICR, nous ne sommes jamais entrés, je dirais, dans cette... cette dialectique, parce que c'est une dialectique contradictoire. Les guérillas des uns sont les terroristes des autres, et réciproquement. Pour nous, il n'y a que des victimes. Et pour nous, ce qui semble intéressant, en tout cas au CICR, c'est qu'en 77, on est arrivé à un texte qui devait concilier à la fois les impératifs humanitaires et à la fois ce qu'on pensait être les nécessités des conflits. Et dans ce sens-là, ce qui est l'apport essentiel, nous semble-t-il, de ces deux protocoles, et en particulier du protocole 1, c'est la protection de la population civile. C'est aussi une extension de la protection des combattants et pas simplement des guérillas, parce que nous pensons qu'en étendant la protection des guérillas, nous les intéressons aussi à l'application du droit humanitaire. Et c'est cette inclusion, je dirais, de l'ensemble des parties au conflit dans ces protocoles que nous avons voulu viser. Et nous l'avons visé en présentant des projets, et ces projets eux-mêmes ont été négociés par l'ensemble des gouvernements qui les ont signés, y compris d'ailleurs les États-Unis. Et ce, sur la base d'expériences qui avaient été réalisées. Et les Américains eux-mêmes ont accordé très largement le statut de prisonnier de guerre aux guérillas qu'ils ont capturés au Sud-Vietnam. Les Français avaient fait la même expérience en Algérie en accordant un traitement de prisonnier de guerre. Et d'autres gouvernements font la même expérience tous les jours en se rendant compte qu'il y a là quelque chose qui n'est pas seulement un aspect politique, mais qui est un aspect d'intérêt militaire et d'intérêt humanitaire.
Je crois qu'il faut rappeler que le premier de ces deux protocoles, ce premier dont nous parlons maintenant, s'applique aux guerres internationales, définies notamment comme des conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit à disposer d'eux-mêmes. Là, je cite, n'est-ce pas, le texte. Bien. Les négociations se sont déroulées à Genève jusqu'en 77. Elles ont été terminées, elles ont été conclues. Mais enfin, est-ce que tout a été dit ou bien est-ce que maintenant il y a encore peut-être certaines choses à négocier ou à reprendre les négociations puisque les temps changent quand même?
Alors, un traité n'est pas un texte gravé dans le marbre. Un traité est un texte vivant. Et ce texte vivant, il se négocie à la table de négociation, il se négocie ensuite dans l'interprétation qui lui est donnée, il se négocie ensuite, évidemment, lors de la ratification. Et ce qui a été dit en 77 et qui pouvait viser, par exemple, exclusivement certaines situations qu'on connaît au Moyen-Orient, en Afrique australe ou ailleurs, eh bien, je pense que c'est aux États eux-mêmes, après, à dire ça s'applique aussi dans d'autres régions du monde. Et je pense que les États-Unis eux-mêmes on dit dans d'autres pays, nous pensons qu'il y a des guerres contre l'occupant étranger. Nous pensons qu'il y a des guerres pour l'autodétermination. Alors si eux veulent aussi faire bénéficier leurs combattants de la liberté de cette protection, c'est évidemment à eux de le dire. Et c'est ce que nous visons, c'est d'avoir une extension, une application généralisée de garanties humanitaires qui nous semble fondamentale. Et ce n'est pas nous d'entrer dans une qualification politique, mais c'est véritablement d'arriver à un traitement meilleur, à des restrictions plus grandes à l'égard de toutes les victimes de tous les conflits armés.
Alors, un mot pour terminer. Lorsque Reagan dit non au CICR, c'est peut-être une façon à lui de reprendre la négociation.
Absolument. Et dans ce sens-là, nous sommes tout à fait prêts à poursuivre ce dialogue en étant bien conscients que ce non au CICR, c'est une simplification extrême de journalistes et ce n'est pas du tout l'intention ni de la Maison-Blanche, ni du Congrès, ni du gouvernement américain dans son ensemble.
Waouh!